Donald Trump ou Joe Biden, les États-Unis votent pour départager les deux septuagénaires qui incarnent une Amérique divisée. Le candidat démocrate part favori, mais tout se jouera dans les États clés, les swing states. Dossier dans ce journal avec nos envoyés spéciaux Franck Mathevon et Gaël Joly. L'attentat de Vienne, revendiqué par l'État islamique, le tueur a été abattu par la police. Il s'agit d'un Autrichien aux racines macédoniennes. L'islamisme s'est implanté en Autriche. Nous en parlerons avec notre invité Patrick Moreau, chercheur au CNRS. En France, la situation sanitaire continue à se dégrader. Le coronavirus a encore tué plus de 400 personnes à l'hôpital dans les dernières 24 heures. Et la situation est particulièrement tendue en région parisienne. Les deux Amériques votent aujourd'hui pour élire le prochain président des États-Unis. Un scrutin polarisé à l'extrême où tout semble opposer Donald Trump à Joe Biden. Le président sortant est dans la rupture et la provocation, alors que son rival démocrate se flatte au contraire de jouer la carte de l'apaisement pour rassembler une société divisée. D'ores et déjà, 100 millions d'Américains ont voté par anticipation, un record, et la participation finale s'annonce très élevée. On retrouve à New York l'un de nos envoyés spéciaux, Franck Mathevon, bonsoir.
Bonsoir.
Franck, Joe Biden reste le favori des sondages nationaux, mais le scrutin se jouera dans les swing states, les États clés. Alors, quels sont ces États qui désigneront sans doute le vainqueur ?
Oui, vous le savez, chaque État attribue un certain nombre de grands électeurs. Il en faut 270 pour remporter la présidentielle aux États-Unis. Et tout se jouera en fait dans une dizaine de swing states. Donald Trump l'a emporté en 2016 car il a gagné presque tous ses swing states. Il a donc peu le droit à l'erreur et les sondages voient Joe Biden gagnant dans la plupart de ses États. C'est la raison pour laquelle le démocrate est donné favori. C'est dans les États clés du Sud que Trump est le mieux placé. Il pourrait gagner le Texas, État traditionnellement républicain. Mais il doit aussi conserver la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et bien sûr la Floride. Si un seul de ces États lui échappe, et c'est très serré dans tous ces États, la bataille devient, l'équation devient difficile pour Trump. Et même s'il les gagne tous, il aura besoin de swing states dans le nord des États-Unis. On pense au Michigan, au Wisconsin, à la Pennsylvanie bien sûr, où les deux candidats ont été très présents ces derniers jours. Dans ces États, Trump est distancé dans les sondages. Pour rester à la Maison-Blanche, la route est donc très étroite.
Franck, en règle générale, on connaît le vainqueur de l'élection présidentielle américaine au petit matin en France. Est-ce qu'on peut espérer la même chose demain ?
Alors, si la victoire est nette d'un côté ou de l'autre, oui, on saura sans doute au petit matin en France qui sera investi président en janvier prochain. La Floride et la Caroline du Nord, par exemple, pourraient produire des résultats avant 5h du matin. Si Biden l'emporte, les jeux sont faits, il deviendra le 46e président des États-Unis. Mais si Trump est devant, il faudra attendre les résultats dans les États où le dépouillement des votes par courrier, très nombreux cette année, peut prendre beaucoup de temps. C'est le cas en Pennsylvanie et dans le Michigan. Or, Donald Trump a déclaré ceci aujourd'hui lors d'une visite au QG du Parti républicain à Arlington. On ne peut pas avoir les résultats en retard, attendre des jours, peut-être des semaines. On ne peut pas faire ça. Le monde entier attend. Ce pays attend, mais le monde aussi. Et beaucoup de mauvaises choses peuvent survenir si on attend. On y passe des jours et d'un coup, le décompte change. Non, il faut une date. Et cette date, c'est le 3 novembre. Et nous avons le droit de savoir qui a gagné le 3 novembre. En clair, dit Trump, inutile d'attendre le dépouillement de ces votes par correspondance réputés plus favorables aux démocrates. Si je suis devant, proclamez-moi vainqueur.
Merci Franck Mathevon en direct de New York. Alors parmi ces swing states, il y a donc la Floride, un état que Donald Trump doit à tout prix gagner pour espérer rester à la Maison Blanche. Il l'avait emporté en 2016 avec un petit point d'avance sur Hillary Clinton. Gaël Joly s'est rendu ce matin devant un bureau de vote de Miami.
Yeah, big day.
À Miami, pas de longue file d'attente. 64% de la population a déjà voté par anticipation. Mais Jason, 23 ans, originaire de Porto Rico, a attendu le dernier moment. Honnêtement, je voulais avoir tous les éléments en tête pour faire ce choix difficile. Mais cette pandémie qu'on traverse, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et c'est un moment où on doit être solidaire entre nous, pas divisé. Jason votera démocrate comme Fatoumata, d'origine ivoirienne.
J'ai vu l'air sous Donald Trump. Et je veux voir l'air sous Joe Biden. So, j'ai voté pour le changement. C'est un peu stressant, mais nous avons confiance. En venant voter ici, on espère bien que un par un, on va faire monter la voix de Joe Biden.
Sans son masque, Erika, salariée de la finance, est venue apporter un soutien ferme au président. C'est sûr, c'est pas le plus grand des hommes, mais notre économie est à l'arrêt. Et si on change de président, ça va aller mal. C'était un choix difficile parce qu'il faut aller contre l'opinion des médias et les gens votent en fonction des médias. Des médias qui en font trop autour des débordements, dit-elle, avant d'ajouter « Vous verrez, tout va bien se passer ».
Gaëlle Joly, envoyée spéciale aux États-Unis. Demain, les matins de France Culture seront bien sûr consacrés à la présidentielle américaine avec peut-être le nom du vainqueur. Et retrouvez sur franceculture.fr tous nos articles consacrés à ce scrutin historique. L'État islamique a revendiqué ce soir l'attentat de Vienne. 4 morts et plusieurs blessés hier soir dans le centre historique de la capitale autrichienne. Le tueur islamiste était un Autrichien issu d'une minorité albanaise des Balkans. L'enquête progresse. Plusieurs personnes ont été arrêtées en Autriche et en Suisse. On fait le point avec Isorias.
Dans un communiqué, le groupe État islamique revendique l'attentat de Vienne, qualifiant son auteur, abattu par la police lundi soir dans la capitale autrichienne, de soldat du califat. On connaît désormais l'identité de ce dernier. Originaire de Macédoine du Nord, ce jeune homme de 20 ans avait également la nationalité autrichienne. Il avait été condamné à de la prison en 2019 pour avoir tenté de rejoindre la Syrie, mais avait été libéré de manière anticipée, réussissant à tromper le programme de déradicalisation, a reconnu le ministre de l'Intérieur, Karl Nehammer, qui a par ailleurs annoncé que 18 perquisitions et 14 arrestations avaient eu lieu en Autriche dans l'entourage de cet assaillant. L'enquête a également pris une dimension internationale avec l'arrestation de 2 hommes de 18 et 24 ans à Winterthur, en Suisse. Leur éventuel lien avec l'auteur de l'attentat de Vienne doit encore être clarifié.
Isor Yas, notre correspondante à Vienne, un invité dans ce journal, Patrick Moreau, chercheur au CNRS à Strasbourg. Spécialiste de l'Autriche. Bonsoir.
Bonsoir.
Patrick Moreau, pourquoi l'Autriche est-elle devenue une cible pour les islamistes ?
Fondamentalement, dans la stratégie des groupes extrémistes, en particulier de l'IS, l'Autriche a une fonction de pont en direction des Balkans. Et donc, il y a eu, depuis maintenant plusieurs années, une implantation, je dirais, de salafistes et d'islamistes de type IS en Autriche, l'État islamique. Et en fait, il y a c'est une situation qui est aussi, pour l'Autriche, une situation optimale, si vous voulez. Vous avez d'un côté une population qui est très hostile à l'islam en général, 70% de la population, et vous avez de l'autre côté environ 700 000 musulmans qui sont, d'après ce que montrent les études et les sondages d'opinion qui ont été effectués, qui sont en fait relativement religieux jusqu'à extrêmement religieux. Ce qui fait que l'exaspération consécutive aux caricatures de Mahomet, a fait que depuis plusieurs jours, on observe sur les réseaux sociaux et aussi du travail d'observation des services secrets, une véritable montée en puissance, si vous voulez, de la volonté de protester. Ce qui était donc une situation optimale, provoquait effectivement un attentat dans ce pays qui est en soi hostile à l'islam.
Quelle est l'origine de la population musulmane ? De quel pays viennent les musulmans aujourd'hui installés en Autriche ?
La plus grande partie, fondamentalement, ce sont des Turcs. Alors, en soi, les Turcs sont très bien intégrés, même si, je dirais que sur le plan historique, il faut revenir pratiquement à la très longue guerre menée entre l'Empire des Habsbourg contre les Turcs, avec le siège de Vienne en 1683 ou le premier siège de Vienne en 1529. Il y a toujours eu une très violente hostilité par rapport à la Turquie. Mais néanmoins, il y a une forte communauté turque qui est venue, qui s'est installée, qui est partiellement d'ailleurs devenue autrichienne. Mais vous avez une seconde vague d'immigration qui a lieu en 2015, et là vous avez eu l'arrivée d'à peu près 5000 Afghans et environ 5000 Syriens, plus une quantité de musulmans venus d'Afrique, etc. Dans l'ensemble, ces 11 000 personnes qui sont arrivées en Autriche ont été acceptées sur le sol autrichien à 92% pour les Syriens et à 78% pour les Afghans. Mais ce qui représente quand même une communauté importante, il y a encore une fois, maintenant, les musulmans sont en Autriche, 8% de la population. C'est une forte minorité.
Mais en l'occurrence, l'assaillant était originaire de la Macédoine du Nord. L'islamisme est présent dans ce pays issu de l'ex-Yougoslavie ?
Ah oui, tout à fait. Fondamentalement, l'objectif des islamistes est une reconquête en fait des Balkans. Donc, vous avez effectivement tout ce qui est minoritaire musulman. Vous avez quand même, pendant la guerre de Yougoslavie, énormément de combats de milices musulmanes contre les assaillants, qu'ils étaient serbes ou croates. Vous avez donc là une véritable base qui s'est installée. Vous avez une très forte présence aussi venue d'Arabie Saoudite et venue du Qatar, où vous avez un prosélytisme très intense. Et ça touche évidemment la Macédoine. Vous avez une très forte minorité musulmane qui est d'origine albanaise en réalité. Donc tout ça fait qu'effectivement il y a des bataillons de réserve qui sont dans les Balkans, et l'Autriche a toujours été dans la stratégie de l'IS un pont justement vers les Balkans.
Patrick Moreau, le chancelier Sébastien Kurz est partisan d'une ligne dure sur l'islamisme mais aussi sur l'immigration extra-européenne. Cela veut dire qu'il s'est fait des ennemis dans le monde musulman ?
Bon, je crois qu'il est détesté comme tous les comme tous les croisés, si pour utiliser un vocabulaire traditionnel de l'IS. Oui, il a toujours été extrêmement clair pour lui. Une des priorités, bon, il y avait Corona bien sûr, mais une des priorités de tout temps, ça a été effectivement la lutte contre l'islam politique. Et il a véritablement agi soit avec le FPE, c'est-à-dire avec l'extrême droite, soit maintenant, malgré les Verts, son alliance avec les Verts, il a eu effectivement une politique de, je dirais, très offensive contre les écoles coraniques, la fermeture de mosquées. Donc, en définitive, il est véritablement haï parce qu'il est, dans la représentation de l'IS, un des penseurs, si vous voulez, de cette Europe qui veut se fermer et empêcher l'immigration.
Patrick Moreau, chercheur au CNRS à Strasbourg, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En France, la deuxième vague du coronavirus est chaque jour un peu plus meurtrière. 430 nouveaux décès à l'hôpital dans les dernières 24 heures. La barre des 38 000 morts depuis le début de l'épidémie est franchie. La vague monte aussi en réanimation où les patients Covid occupent désormais 60% des 6 400 lits disponibles. Un chiffre qui grimpe à 80% en Île-de-France où la situation devient critique, Cécilia Arbonnat.
Les chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France sont chaque jour de plus en plus mauvais. 5625 personnes étaient hospitalisées hier contre 5194 la veille. 939 patients Covid sont en soins critiques alors que dimanche ils étaient 891. Ça ne va pas s'arranger, prévient le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine.
Oui, malheureusement, la tendance elle est à une augmentation exponentielle des cas de Covid. Et donc cette augmentation des hospitalisations, notamment en Île-de-France, nous amène à un nouveau pic d'ici environ une quinzaine de jours. Ça veut dire, ce qui est sûr, c'est que ce confinement n'aura pas l'effet du premier confinement. Le confinement n'est pas aussi strict. Et surtout, globalement, en automne et en hiver, on a beaucoup d'épidémies dites automno-hivernales d'infections respiratoires. Il y a d'autres maladies, la grippe bien sûr, le virus respiratoire syncytial chez les enfants. On sait très bien que la fin des épidémies des infections respiratoires, c'est souvent dans le courant du mois de mars ou du mois d'avril. Donc il faut changer notre façon de vivre, qu'on continue à garder cette bulle qui fait qu'on limite son nombre de contacts, idéalement à 6 personnes, pour contrôler la circulation du virus sur le territoire jusqu'à, je l'espère, un vaccin cet été.
L'été prochain, c'est-à-dire l'été 2021, une échéance qui apparaît dans ce monde d'après comme à des années-lumière de nous.
Cécilia Arbonnat, merci. Vous allez souffrir, je le sais, a dit Jean Castex aux soignants cet après-midi. Le Premier ministre s'est rendu au centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonne. Un peu plus tôt à l'Assemblée, Jean Castex avait accusé certains élus de violer les règles de la République. Allusion aux maires qui ont pris des arrêtés autorisant le petit commerce à ouvrir malgré le confinement. Le tribunal administratif de Strasbourg a d'ailleurs suspendu aujourd'hui l'un de ces arrêtés pris par le maire de Colmar. Le temps demain ensoleillé sur le nord-ouest, un peu plus nuageux dans le sud-ouest. À l'est, un ciel faiblement pluvieux de l'Alsace à la Côte d'Azur. Ailleurs, c'est le soleil qui dominera. Les températures minimales seront comprises entre 0 à 12 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales, elles iront de 9 à 20 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.